Oh, une émission un peu particulière pour nous.
C'est vrai.
Oh, bah, on oui, est tout émoustillé.
Pendant des années, on a parlé de lui tout le temps, en faisant plein de blagues, etc. Et puis maintenant, il est là avec nous.
C'est Manuel Valls qui est avec nous.
Non.
Je confonds toujours les deux.
On reçoit un apiculteur. Attention, c'est parti. Garçons.
Salut Charlie.
Aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on reçoit quelqu'un qui change le monde.
Ah, c'est aujourd'hui.
C'est quelqu'un qui agit vraiment sur la société, sur le quotidien des gens.
Ah, c'est un trader, un DRH.
Hein
non, je rigole.
Un apiculteur, devrais-je dire.
On va sauver les abeilles. Alors, comment il s'appelle ce monsieur?
C'est pas ça qui est important. Non, alors, il a fondé une start-up agricole qui fabrique un miel 100% français.
Du miel in France, on pourrait dire.
Et qui s'appelle le miel et les abeilles.
Non, ça s'appelle Bleu Blanc Ruche.
Ah, c'est cool. Et c'est qui alors?
C'est pas ça qui est important. Il a aussi fondé une école, l'école des hautes études apicoles.
C'est une école pour Juliette.
Hein, comment ça?
Bah, apicole.
Ah oui.
Ouais.
Bon, bah, donne son nom au mec, c'est qui?
Mais c'est pas ça qui est important.
Ce serait pas, par exemple, quelqu'un qui participe au redressement de la France?
Je dirais même plutôt au redressement productif.
Comment ça? Et vous savez qu'en 30 ans, plus de 30
ans. Charlie, il y a une ligne éditoriale dans cette émission.
Changer le monde.
Non. En ce qui concerne les invités.
Les invités.
Oui, c'est des invités qui changent le monde.
On avait dit pas d'hommes politiques.
Voilà. Mais c'est pas ça qui est important.
Oui.
Puis surtout, on reçoit un apiculteur.
Tu crois qu'on l'a pas démasqué, ton apiculteur?
C'est ton nono chéri, évidemment.
Là, tu sais quel est le vrai défaut de Charline?
Non, mais c'est pas ça qui est important.
Si, c'est ça qui est important.
Charline Vadonakier n'a qu'un seul défaut, c'est ses compagnons de travail. Bonjour la France Inter et bienvenue dans l'Open Space où l'actualité s'épanouit au contact de la blague. Le ministère de la Santé envisage de noter l'hôpital public. Le ministère de l'Éducation lui propose d'évaluer les enseignants. En créant une société de la notation, on prépare un monde de premier de la classe.
Vous me permettrez d'être indiscipliné comme je le suis dans d'autres enceintes.
Jusqu'à New York, les journaux parlent de cette incongruité française. Des politiciens de carrière ont perdu leur mandat. Pour la première fois, plusieurs anciens ministres sont contraints à la reconversion.
C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses.
Le cinéma s'empare de plus en plus souvent de la politique. Le monde politique est-il si cinégénique, voire glamour?
Écoutez, moi je goûte peu la presse P.O.P.
C'est spécial, spécial. Et vous goûtez la presse P.O.P.
Quand vous êtes dedans. Beaucoup trop rarement.
Alex Vizorek est avec nous.
Et oui, mais j'ai une belle équipe évidemment. Il fallait ça aujourd'hui à 17h20. Celui qui a un prénom qui est une insulte à la République. Et c'est difficile pour un Zemmourien convaincu comme lui. C'est Pablo Mira.
Oui, salut Alex, salut Charline. Guillaume, alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de nos policiers qui se sentent abandonnés, leur quotidien dans les quartiers est un calvaire et on peut pas leur laisser subir ce que vivent les téléspectateurs de CNews. À tout à l'heure.
À 17h30, celui qui est souvent sur les marchés, il est donc
toujours
moins en marche qu'en marché.
Oh, c'est bon.
C'est Guillaume Meurice.
Magnifique, bonjour à tous, chronique spéciale invitée aujourd'hui, je suis allé voir les Français pour tester l'immense popularité d'Arnaud Montebourg.
Arnaud
Montebourg.
Je ne le connais pas.
Ouais, presque.
Et enfin 17h40, celle qui est toujours en course pour obtenir le prix Goncourt. Autant vous dire qu'elle est plus amoureuse de Bernard Pivot que de moi en ce moment. C'est Clara Dupont-Moineau, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour à tous.
De quoi on va parler?
De politique et de meurtre.
C'est la même chose en fait, hein, techniquement.
Eh ben, dis donc.
Et dans cette start-up émission, voici celui qui va ambiancer l'Open Space. Je vous laisse nous annoncer votre nom. Vous êtes
Arnaud Montebourg.
Bien sûr, c'est lui.
C'est bizarre.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Arnaud Montebourg, nous recevons l'apiculteur aujourd'hui. Vous êtes devenu entrepreneur, vous avez créé une société, les équipes du Made in France, pour relancer des productions Made in France, du miel et de l'amande. Il y a la Société d'élevage et de repeuplement des abeilles de France, il y a la Compagnie française de l'amande méditerranéenne. Alors quand on parle de vous, on dit Arnaud Montebourg, l'apiculteur. Vous êtes vraiment apiculteur? Vous mettez aussi la main à la ruche? Comment ça se passe?
Pas tout à fait, car c'est un métier difficile qui s'apprend sur de longues années. Et je n'ai pas eu cette chance de l'être. Peut-être si j'avais eu 25 ans ou 30 ans, je l'aurais fait. Mais j'en ai 56. Donc, en revanche, fédérer les apiculteurs, financer leur développement, former les nouvelles générations d'apiculteurs, valoriser leur travail, créer une marque qui valorise leur travail de respect de l'abeille et qui leur permettent de vivre confortablement et raisonnablement de ce qu'ils font, ça, oui, c'est intéressant parce que c'est le travail, finalement, de toute une filière. Donc, nous avons créé, c'est vrai, Bleu Blanc Ruche, qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ce sont des apiculteurs français qui vendent leur miel sans mélange, sans trafic, sans aucune forme de détournement, de fraude ou de soupçon.
Généralement, la fraude, c'est mélangé à du sirop, c'est ça?
C'est souvent mélangé à du sirop lorsqu'elle est détectée. Il y a quand même un tiers des miels, selon UFC Que Choisir, de premier prix de grande distribution, qui ont été considérés comme frauduleux. Donc, c'est donc bien qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que quand on mélange du sirop de sucre au miel, c'est du faux miel, qui est beaucoup moins cher, c'est du miel low cost, mais c'est pas du miel. Et évidemment, ça met en difficulté, en péril les apiculteurs, qui, s'ils ne peuvent plus vivre de leur travail, eh bien, voient les abeilles disparaître. Si vous ne protégez pas le gardien des abeilles, vous perdez les abeilles. Donc, notre choix, c'est de reformer des générations d'apiculteurs de haut niveau, métier de haute scientificité maintenant, parce que c'est presque un boulot de vétérinaire. Avant, c'était un métier de cueillette, mettez 50 ruches au fond des bois, le miel coulait.
Ça souffre pas l'amateurisme, tout ça, parce que, il faut vraiment être très professionnel pour s'occuper des ruches. Sinon, il y a des périls.
Et d'ailleurs, notre idée, c'est qu'il faut professionnaliser davantage la profession, puisqu'on ne produit plus assez de miel. Il y a 20 ans, on consommait 30 000 tonnes de miel, on en produisait 30 000, ça s'équilibrait. Maintenant, on en consomme 45 000, on a produit l'année dernière à peine 15 000, 16 000.
Donc, vous voyez qu'on consomme plus de miel qu'avant.
Oui, parce que la population a augmenté. Puis aussi, c'est un produit qui connaît du succès et de nouveaux adhérents.
Et on sait combien de personnes il faudrait former ou pas?
Alors, dans l'idéal, ça se compte en nombre de ruches. Il manque 13 millions de ruches en Europe.
Ouais.
On évalue qu'il en manque 1,5 million à peu près en France. Pour recréer 1,5 million de ruches, vous avez des exploitations de 200, 300, 500 ruches. Vous voyez ce que ça fait comme apiculteurs qui peuvent vivre de leur travail. Vous voyez le nombre de gens qu'il faut former. C'est pour ça qu'il y avait hautes études commerciales, HEC. Alors on a fondé HEA, hautes études apicoles. Voilà. C'est un peu une école nationale d'apiculture, l'ENA, vous voyez, qui sert finalement à repeupler avec des gens de très haut niveau qui veulent se former, se reconvertir. Il y a 10 millions de Français qui veulent retourner à la campagne, qui veulent quitter la ville. Bah, c'est un peu pour eux aussi que nous avons donné cette possibilité.
Ça, on a le soutien. Que Guillaume le fasse, d'ailleurs.
Bah, pourquoi pas l'un d'entre vous, par exemple.
Est-ce qu'on peut traverser la rue et devenir éventuellement apiculteur?
Non, il faut traverser.
C'est ma question.
Non, la traverser un tout petit peu plus loin.
Un peu plus loin.
C'est une forme d'odyssée contre soi-même, parce que c'est un an de formation. Il faut le soutien de Pôle emploi. Il faut soi-même avoir... l'école, nous ne la faisons pas payer, mais il faut quand même vivre pendant un an de formation. Et c'est avec le soutien de la filière, parce que nous avons mis autour de la table des apiculteurs aguerris et professionnels et des financiers pour nous aider à faire ça.
Et voilà. Donc, si je comprends bien, vous rémunérez des apiculteurs français au prix au-dessus du marché, en échange de leur engagement accroître les colonies d'abeilles.
C'est exactement ça. Bleu Blanc Ruche, vous allez payer un pot peut-être 20, 30, 40, 50 centimes selon les miels, peut-être un peu plus, c'est des miels bio plus rares, un peu plus votre pot. Et en contrepartie, les centimes que nous obtenons sur le pot, ça fait des dizaines de milliers d'euros à la tonne chez l'apiculteur. Et là, l'engagement de nos apiculteurs, c'est d'augmenter le nombre de ruches l'année qui suit. Donc, par exemple, on a le projet avec un apiculteur qui a déjà 600 ruches. Il veut créer une autre exploitation de 600 ruches à côté avec nous pour pouvoir augmenter et repeupler la France en abeilles.
Et c'est pareil avec les amandes. Votre compagnie française de l'amande méditerranéenne, il y a aussi ce même système?
Eh ben, c'est le même problème.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amandiers en France. On consomme, l'Union européenne consomme 3 milliards d'euros d'amandes par an, importe 80% de Californie.
Ah ouais.
La Californie est le premier producteur mondial. 365 000 hectares, ils n'ont plus d'eau. Pourquoi aller chercher des amandes en Californie alors qu'en 1948, il y avait 12 000 hectares d'amandiers plantés en Provence? Donc l'amande made in France, les industriels de la transformation, pas d'amandes, pâtissiers, l'Occitane, nous demandent du produit made in France, il n'y en a pas. Eh ben, on plante. Donc on a monté un modèle économique avec des arboriculteurs pour replanter des amandiers. C'est de la relocalisation agricole.
Arnaud Abliculteur est avec nous jusqu'à 18h. Arnaud Montebourg, donc votre société, donc les équipes du Made in France et donc bleu blanc rouge. Donc à un moment on pourra consommer des pots de miel bleu blanc.
Ah, bleu blanc.
Faites les questions et les
réponses. Sans échantillon. Non mais sans échantillon.
Où est-ce qu'on peut le trouver? Et bien sûr une plateforme de financement participatif qui s'appelle Ulule, ulule.fr, et tout le monde peut se connecter et contribuer. Alors vous pouvez acheter 50 pots de miel, un pot de miel, ce que vous voulez.
Qui arrivera quand alors?
Qui arrive à la fin de la campagne, c'est-à-dire mi-octobre. Okay. Voilà, dans un mois. Et tout le monde peut donc acheter son pot de miel bleu blanc rouge sur Internet et contribuer au repeuplement ainsi. Et puis ultérieurement, ce sera la surprise dans la grande distribution. Peut-être, nous allons voir si Monsieur Leclerc est un homme qui fait monter la rémunération des apiculteurs ou pas.
Président des apiculteurs, Arnaud Montebourg avec nous jusqu'à 18h. Il y a aussi Pablo, Clara, Guillaume et Alex. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance need the cover of October skies. Yet all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Yet I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to shine in your blush. You, my love, can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? C'est Van Morrison sur France Inter, par Jupiter. C'est Arnaud Montebourg, l'apiculteur, notre invité. Il est 17h20 à Frangy-en-Bresse. Salut aux habitants de Frangy-en-Bresse. Et pour entourer Arnaud Montebourg.
Mais Madame Charline, je vais vous dire qu'est autour de la table. Il y a Pablo Mira, Guillaume Meurice. Monsieur Pablo Mira, Monsieur Guillaume Meurice et la demoiselle Dupont-Monou.
Si on faisait un petit journal dans lequel vous avez tant figuré lors de la précédente présidentielle et maintenant c'est pour les autres, les autres qui prennent maintenant.
C'est Jupiter qui trosse.
Quelle est votre activité professionnelle actuelle?
Monsieur Benalla.
Le Pôle emploi.
Le journal de presque 17h17.
Vous faites une rue là, vous allez à Montparnasse, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment.
Et on commence par les titres.
Lors de son audition ce matin au Sénat, Alexandre Benalla a assuré n'avoir jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron.
Putain, vivement qui rentre en vigueur le plan santé du président parce que Alzheimer fait les ravages.
Selon le Canard enchaîné, l'ex-patron du Grand Palais Jean-Paul Cluzel aurait dépensé 400 000 euros en frais de taxi et de limousine.
Excellente nouvelle pour lui. Selon la jurisprudence Agnès Salle, il devrait bientôt donc recevoir une promotion de la part du président de la République.
Est-ce qu'il y a des brèves?
Moi, je n'ai jamais fait de brèves.
Ah,
alors
jamais.
Non,
on va demander à Gérard Collomb et on va vous appuyer évidemment.
Alors, on commence par une éphéméride. Oui.
C'est la journée nationale de la qualité de l'air. À cette occasion, le ministère de l'écologie promeut les bonnes pratiques pour mieux respirer.
Parmi ces pratiques, on retrouve notamment privilégier la marche ou les transports en commun, isoler son logement ou encore ne pas laisser Éric Zemmour diffuser ses idées.
Ce matin, Alexandre Benalla a donc passé une audition devant les sénateurs.
Oui, une audition devant les sénateurs, c'est à peu près comme une audition à The Voice. C'est un jeune qui débute, qui est jugé par des vrais pros. Dans The Voice, des pros de la musique, au Sénat, c'est des pros des petites magouilles de la République. Mais
quant à l'audition elle-même, Alex.
L'audition elle-même. Dans son propos liminaire, M. Benalla s'est excusé auprès de Philippe Basse de l'avoir qualifié de petit marquis.
J'ai été bien élevé.
Et j'ai un profond regret pour le propos que j'ai pu avoir à votre rencontre, monsieur le président. Parce que, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la pression, on s'en prend pas aux hommes.
Oui, alors on s'en prend pas aux hommes, sauf quand on porte un brassard de la police et que ah, ces hommes folie. Sont des bouffeurs de merguez. Là,
mais le meilleur était à venir. Ah. Il a notamment affirmé qu'il n'avait jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron et que s'il disposait d'une arme, c'était pour sa propre sécurité, ouais. parce qu'il était davantage menacé que les autres membres de la campagne.
Et si ça tombe, on va bientôt apprendre que c'était Emmanuel Macron qui était le garde du corps d'Alexandre
Benalla. Sans doute. Ouais. On lui a également demandé, en lui montrant des photos, si vous n'étiez pas garde du corps du président, mais que vous étiez à la place du garde du corps en épaule, alors où était le garde du corps ?
Réponse de l'intéressé, le garde du corps était soit à droite si j'étais à gauche, soit à gauche si j'étais à droite.
C'est la vraie réponse.
Voilà, ouais. on dirait, c'est oui c'est la vraie ouais. réponse. Un résumé de la position politique d'Emmanuel Macron.
Ouais, tout à fait ça. Allez, international, en Corée, Kim Jong-un a annoncé une visite historique à Séoul, dans le sud, dans un avenir proche.
Et tout est possible, on attend maintenant la sortie du duo Booba-Karis.
international encore, le premier américain à avoir rejoint Al-Qaïda parle d'une vie extrêmement ennuyeuse.
Oui, enfin, de quoi il se plaint, hein. Il est quand même pas marié à Christine Angot.
C'est vrai. Et justement, Emmanuel Macron souhaite créer un musée mémorial.
C'est bien. Oui.
Donc le président souhaite créer un musée mémorial pour les victimes du terrorisme.
Eh bien, ça fera au moins un bâtiment à Paris que le Qatar ne rachètera pas.
Selon le Canard enchaîné, donc l'ex-patron du Grand Palais, Jean-Paul Cluzel, et par ailleurs ancien président de Radio France, aurait dépensé 400 000 euros en frais de taxi et de limousine.
Qu'en pense le président ?
On met un pognon dedans.
Ah oui, on met un pognon dingue hein, dans les taxis et les limousines.
Et les brèves.
De brèves, Pas-de-Calais, une mère se marie en même temps que sa fille, avec le même modèle de robe lors de la même cérémonie. On est dans le Nord, on peut déjà être content qu'elles ne se soient pas mariées ensemble.
Et la dernière.
Oui, je salue les gens du Nord. Et la dernière. Pays-Bas, des couches pour bébés seront recyclées en pots de fleurs ou en meubles de jardin. Et c'est là qu'on découvre la double sens de... Pardon, c'est là qu'on découvre le double sens de l'émission Silence, ça pousse.
Merci Alex.
Si je l'avais pas niqué, mais j'ai buté.
Arnaud Montebourg, avant d'être apiculteur, vous avez eu le nez creux, vous étiez séparé d'Alexandre Benalla.
Le nez creux, écoutez, non, j'ai pas eu le nez creux. Moi, je m'occupais pas de ces questions, c'est les gens de mon cabinet. Qui s'occupe du protocole, l'organisation, je lui dis, tu auras cette personne pour chauffer la voiture, chauffeur. Je dis, très bien, d'accord. Je suis dans cette voiture, je suis en train de travailler, et l'homme a un accident avec un véhicule à l'arrêt. Je lui dis, il faut peut-être laisser les coordonnées, parce qu'il y a un préjudice qui est subi par la personne qui avait rien demandé. Mmh. Il me dit, il me met la main sur la tête, j'étais quand même le ministre du redressement productif. Il me dit, non, monsieur, cachez-vous, me dit-il. Je vais pas me cacher. D'abord, je vais sortir de ce véhicule et je vais rentrer, parce que c'était pas très loin de Bercy, je vais rentrer à Bercy à pied. Donc, je suis allé à Bercy à pied, je lui ai dit, je crois qu'il l'a fait, de laisser ses coordonnées. Je suis monté voir mon chef de cabinet, je lui ai dit, vous me virez cet individu qui est complètement instable et dangereux. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je ne peux pas dire mieux, je ne le connais pas plus que ça.
Voilà pour l'histoire. Alors Arnaud Montebourg, on va profiter de votre présence pour aborder ce premier sujet. Car au moment où on envisage de remplacer les notes des élèves par des petits soleils et des gommettes, parce qu'on veut éviter de les traumatiser, la ministre de la Santé, elle envisage de noter les hôpitaux publics, le ministre de l'Éducation veut évaluer les enseignants, et puis finalement, on vit dans un monde au-delà du gouvernement et la politique, où on note tout. On doit même donner une note jusque dans les chiottes des aéroports.
C'est vrai.
Hein. Donc donner une note, je rappelle, c'est un petit pouvoir quand même. Écoutez.
Je vous rends les dissertations. Alors là, nous descendons dans les bas-fonds de l'intelligence humaine. Nous retombons brutalement sur une terre épaisse et bien rude, comme l'est l'intelligence de notre pauvre Noémie, qui avec 4 sur 20 a même réussi à faire des progrès. C'est peu dire. Pénélope Léger. Ça allait beaucoup trop, ça, Léger. On s'ennuie beaucoup à vous lire, vous savez. Anna, c'est vain, c'est stupide, c'est aussi prétentieux et tout à fait creux. Voilà, 5.
Voilà, Denis Podalydès dans le film Les Grands Esprits. Donc, Arnaud Montebourg, notre société, elle s'apprête à tout noter, tout évaluer, les enseignants, les hôpitaux publics, etc. Alors, on sait qu'on vit dans un monde de premier de cordée, mais est-ce qu'on se dirige aussi vers un monde de premier de la classe ? Est-ce que vous êtes sensible à cette inquiétude qu'on peut avoir de toujours tout noter ? Votre miel va être noté par rapport aux autres miels, ça oui, mais quand il y a un service public, quand il y a...
Bah, écoutez, l'évaluation est nécessaire, mais évidemment, lorsque vous demandez aux élèves de noter l'autre professeur, vous avez une inversion des choses. C'est-à-dire que finalement, tout se vaut. Et toutes les notes s'accumulent dans tous les sens, et finalement, vous avez une société plate, où il n'y a plus que des mentions TripAdvisor sur tout ce que vous faites, au point d'ailleurs que finalement, vous vous retrouvez en situation de ne plus tellement avoir de repères. Donc, la question c'est, est-ce qu'il y a des choses qui échappent à la notation ? Oui, les métiers d'autorité, parce qu'ils ont l'autorité, et dans la médecine, il y a une part d'autorité. Est-ce que moi-même, je suis apte à noter mon chirurgien ? C'est évidemment, s'il s'est trompé de jambe lorsqu'il a changé le genou, je veux bien penser que là, pour le coup, c'est pas une note, je vais lui faire un procès. Ouais. Mais en dehors de ça, est-ce que je suis capable de le faire? Je crois pas. Est-ce que je vais noter mon médecin? Est-ce que moi-même, qui suis retourné à l'école pour me former, quittant le gouvernement, parce que je pense qu'il faut se former toute sa vie, et c'est très intéressant. Je donnais des cours à Princeton, mais j'ai reçu des cours à Fontainebleau, à l'INSEAD. C'est intéressant. Mais franchement, je n'étais pas apte à noter mes professeurs. Pourtant, j'avais été ministre de l'économie.
Donc, c'est pas vrai, là. Dans votre cas, c'est pas vrai. C'est-à-dire que à l'université, notamment en Belgique, ils ont un âge où ils sont capables de juger de la qualité de pédagogue du professeur.
Ben, je pense qu'on peut se tromper. Pour une raison simple, parce que le pédagogue lui-même a la vision de où il veut emmener l'élève, quel que soit son âge, et donc faut lui laisser cette liberté. La vérité, c'est qu'il y a derrière une perte de liberté et d'autorité. C'est ça qui est en train de se jouer. Donc franchement, moi, je ne participe pas toujours à la notation. Vous voyez, par exemple,
vous la refusez quand on a...
dans les taxis, on nous demande de noter les chauffeurs. Je mets toujours la note maximale par principe, puisque sinon vous pouvez pas commander.
Moi, je fais l'inverse. Je mets toujours la pire par principe. Non, mais même c'était super.
Attention, c'est les VTC qu'on note, hein, les taxis, non, je pense. On peut noter si les taxis
aussi sur les applications, en effet.
Mais... on demandera Jean-Paul Cluzel.
On n'est jamais très loin de l'idée du ressenti, en fait, du consommateur. Moi, c'est ça que je trouve gênant aussi. C'est-à-dire que dans les questionnaires, on n'est jamais très loin de est-ce que vous vous êtes senti à l'hôpital, en sécurité, pris comme une personne et pas comme un objet médical. Est-ce que c'est comme le fameux sentiment d'insécurité? Il n'y a rien de plus subjectif et aléatoire qu'un sentiment. Et du coup, il y a quelque chose, je trouve, de très dangereux à estimer que le ressenti de la personne, qu'elle soit patient, qu'elle soit élève, qu'elle soit parent aussi.
La subjectivité,
en fait. Oui, en fait, du coup, deviennent valent pour pleine autorité. Justement, c'est le ressenti qui est subjectif, qui remplace quelque chose d'objectif, qui est une forme d'autorité.
Mais ça s'incarne avec les smiley, on parlait des toilettes tout à l'heure, aux sorties des toilettes des aéroports, c'est pas des notes sur 20, c'est des smiley avec des sourires.
C'est du ressenti.
Voilà. Exactement.
Ouais. Ça a peut-être commencé avec les agences de notation d'ailleurs, non?
La vérité c'est que je pense qu'il faut aussi parfois noter les agences de notation. Il y aurait beaucoup à dire. Ouais. Donc si vous voulez, qui garde les gardiens? C'est la même chose. Est-ce que la foule a toujours raison? Ça n'est pas certain. Elle peut parfois se tromper. Nous avons eu des cas dans l'histoire qui a montré que j'ai rencontré un jour un Allemand qui était très âgé, j'étais jeune. Il m'a dit, il avait 90 ans, il dit, je ne vote plus parce que j'ai voté Hitler. Bon, ça existe quand même. Donc, cette histoire-là, nous devons nous en souvenir. Donc, la foule peut se tromper.
Arnaud Montebourg.
Agnès Buzyn égale SS, je crois qu'on peut conclure le débat comme ça.
Ce sera le titre de cette émission.
Non mais c'était, excusez-moi, je prenais cet exemple un peu fort.
Vous avez un peu pourri l'ambiance, moi je suis juste après, ça m'arrange
vous
pas.
Vous êtes dans une émission satirique, profitez-en. Arnaud Montebourg, l'entrepreneur avec ses équipes du Made in France pour le miel et les amandes. Et il est 17h30, l'heure de passer la parole à celui qui, pour soutenir Éric Zemmour, a décidé de s'appeler Corinne. C'est vous, Corinne Mira, qui nous parlait du retour de la police de proximité annoncé par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur.
Oui, Charline, et aujourd'hui, je vais m'adresser aux policiers qui nous écoutent. Non, je déconne, on est sur France Inter, évidemment, il n'y en a pas. Je m'adresse aux professeurs de collège-lycée qui nous écoutent et qui auraient un cousin policier à qui il ne parle plus depuis 10 ans. Eh bien, il est temps de se soucier un peu de notre police qui souffre. Une police qui, espérons-le, ira bientôt mieux grâce au plan reconquête des banlieues de Gérard Collomb. Car oui, enfin, la République va enfin faire trembler les délinquants. Et ça ne sera même pas à cause de Gérard Larcher qui fait un footing. L'objectif de ce nouveau plan, et c'est pas gratuit ça Alex,
ça, c'est vraiment pas gratuit.
L'objectif de ce nouveau plan, envoyer 1600 policiers de proximité dans les quartiers difficiles où circule pas mal de drogue. Donc attendez-vous à avoir débarqué beaucoup d'agents de police si vous habitez dans Thierry Ardisson. Petite précision, les 1600 policiers seront tous des volontaires. Et moi je dis bravo à tous ceux qui s'engagent dans ces quartiers. Il me rappelle un peu Alex draguant une femme. Hein. On sait qu'ils échoueront dans leur mission. Mais quel courage Alex. Et du courage, il en faudra, car ce plan Reconquête sera une mission longue et compliquée face à des délinquants de plus en plus rodés, il faut le dire ce qui est. Depuis des années, ils savent parfaitement où cacher la drogue, où cacher les armes, où cacher leurs neurones. Mais au moins, ce dispositif a le mérite d'exister. L'occasion pour moi d'ailleurs de tirer un grand coup de chapeau à Gérard Collomb. J'ai toujours été fan de son travail, que ce soit au ministère de l'Intérieur, à la mairie de Lyon ou sur
W9. Ouais. Mais de quoi vous parlez, Pablo, là,
Corinne, Charline.
Pardon, oui, de quoi vous parlez, Corinne, je veux dire, avec Gérard Collomb et W9, là,
Attendez, Charline, vous mettez le doute, là, ce qu'on entend là.
Achève-le!
C'est pas Gérard Collomb en train de doubler le père d'Homer Simpson dans Les Simpsons? Non? Pardon, c'est à s'y méprendre. Oui. En tout cas, là où je n'ai aucun doute, c'est sur la déliquescence de nos banlieues. On a des quartiers où les lois de la République ne sont même plus respectées. On a des quartiers qui se sont mis à ressembler au cerveau d'Alexandre Benalla, quelque part. Et il suffit pour ça d'aller sur place pour s'en convaincre. C'est le Far West. Le nombre d'insultes envers les policiers explose, ce qui veut dire deux choses. Un, l'autorité de la police a été mise à mal. Et deux, la supérette en bas de chez Jean-Vincent Placé continue de lui vendre de l'alcool. Mais ceux qui souffrent le plus, ce sont bien sûr les habitants de ces quartiers difficiles qui n'en peuvent plus. La preuve avec ce sondage de l'INSEE réalisé en janvier dernier. 90% des Français se disent favorables à un retour de la police de proximité. Les 10% contre étant bien sûr des agents de la police de proximité. Et il est peut-être là le mot-clé de la réussite de ce projet. Proximité. Proximité des policiers avec les riverains. Proximité des semelles des policiers avec le visage des délinquants. Quant aux plus récalcitrants, eh bien, moi je le dis, il faut chasser ces crapules par tous les moyens. Par tous les moyens. Même les plus violents comme, je sais pas moi, tourner l'émission d'Yves Calvi sur Canal+, dans un hall d'immeuble. Écoutez, ça a fait fuir les téléspectateurs. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec les voyous. Alors, est-ce que ça suffira, Arnaud? Est-ce que ça suffira? Réponse, très honnêtement, non. Car pour que la reconquête fonctionne vraiment, la police devra aussi tenir un rôle, on va dire, pédagogique envers ces jeunes en perdition. Leur expliquer qu'on ne rackette pas des retraités en leur tapant dessus, mais en augmentant la CSG. Pour conclusier, c'est anormal, je le dis, que dans certains quartiers, on laisse 3, 4 caïds pourrir la vie des habitants. Il est temps que ces jeunes arrêtent de piquer le boulot des 577 personnes qu'on a élues à l'Assemblée pour le faire à leur place. Allez, salut. Je suis encore énervé aujourd'hui, ça m'énerve, je m'énerve chaque semaine.
Merci Corinne Mira, merci beaucoup. Éditorialiste.
Oui, au moins c'est français. Ouais, renseignez-vous.
À Vanneurs actuelles, bien sûr. Il est 17h34 sur France Inter. C'est Arnaud Montebourg, notre invité aujourd'hui. Il est avec nous jusqu'à 18h. L'apiculteur, bien sûr. Clara, Alex, Guillaume, Pablo. Musique.
Elle me dit fuis le miroir, garde l'espoir, suis le tour, regarde devant, fuis la consigne, garde l'élan, garde la ligne, suis le moment. Elle me dit fuis le miroir. Le jour. Et la nuit. Le jour. Et la nuit. Elle me dit fuis la colère. Regarde derrière, garde l'espoir. Fuis la consigne. Garde l'élan, garde la ligne. Suis le moment. Garde l'élan, elle me dit fuis la colère. Le jour et la nuit. Le jour. Un jour découvrir, et puis devenir. Un jour découvrir.
le jour.
Le jour et la nuit, Gaëtan Roussel sur France Inter, programmation musicale Djoubaka. Il est 17h37 à Fissin, en Côte d'Or. C'est là où vous avez fait vos classes.
C'est vrai.
Arnaud Montebourg,
c'est vrai,
n'est-ce
des
pas
vieux souvenirs.
Arnaud Montebourg est avec nous, l'entrepreneur avec sa société Les Équipes du Made in France, qui s'occupe du miel bleu blanc ruche, aussi de l'amande méditerranéenne. Et à côté de vous, il y a Guillaume Meurice qui s'est intéressé à vous, Arnaud Montebourg.
Oui, je suis très heureux de voilà qu'on reçoive Arnaud Montebourg, le célèbre apiculteur. Saviez-vous que vous aviez un homonyme illustre qui a été homme politique? Arnaud Montebourg, c'est le même orthographe. Il a été ministre sous Jean-Marc Ayrault. Alors, je sais pas si quelqu'un se souvient ici de Jean-Marc Ayrault.
Un chanteur.
C'était le prof de charisme de François de Rugy. Il lui a tout appris. Et le Arnaud Montebourg en question, il était dans le gouvernement Manuel Valls. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de Manuel Valls. C'est le mec qui a la même cote de popularité que Zemmour chez les Black Panthers. Eh bien, ce Arnaud Montebourg-là, il l'a connu. Et il a marqué les Français, ce Arnaud Montebourg. Je le sais, parce que ces Français, je les ai rencontrés ce matin. Et il a laissé une trace indélébile dans leur tête.
Si je vous dis Arnaud Montebourg, ça vous évoque quoi?
Le slip français ou...
Si je vous dis Arnaud Montebourg, vous répondez slip français.
Slip français et puis Cocorico, voilà.
Voilà, Cocorico et slip français. Arnaud Montebourg a laissé une trace indélébile dans le slip français. Voilà, faudrait quand même pas l'oublier. C'est de l'humour made in France aussi, attention. Cocorico, vive l'almanach Vermeaux. Toujours est-il que les Français aiment cet Arnaud Montebourg pour son côté fantasque et rebelle.
Il a toujours eu des positions complètement décalées sur tous les sujets. Quand il était dedans, il était dehors. Quand il revenait dedans, il repartait ailleurs.
Et si on devait retenir une chose de son action politique? C'est pas évident.
Non,
non, c'est pas. Il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement de réformes. Enfin voilà, pas toutes vous les citer. Je vous rappelle qu'il a été ministre en pleine guerre contre le monde de la finance. C'était violent à l'époque, hein, quand même. On pendait les traders par les couilles. Dominique Seux a dû se cacher des jours dans la fiche d'imposition de Thomas Thévenoud pour échapper à l'horreur. Donc c'est difficile de faire le tri dans l'action de cet Arnaud Montebourg. Les Français ont le tournis. Alors les Françaises, c'est encore pire.
Vraiment, je ne me souviens plus du tout ce qu'il a fait, mais c'est un peu des problèmes de mémoire aussi. Donc...
Oui, ça doit être ça.
Mais on le voit plus sur match, donc on n'est plus au courant de ce qu'il fait.
Bah oui, avant on le voyait en couverture de match.
À moins qu'il fasse de nouvelles rencontres.
Ah oui, c'est vrai que ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu en couvre de Paris Match, cet Arnaud Montebourg. Hein, ça fait longtemps. Peut-être qu'il est déjà dans les salles d'attente des dentistes, entre deux morts célèbres du style Lady Di ou Jean-Pierre Elkabbach. Mais bon, Arnaud, il est vivant et il plaît à cette autre dame.
Oui, ça va.
Ouais. Pourquoi vous l'aimez bien?
Je le trouvais plutôt à ma fantaisie, là.
Vous le trouviez à votre fantaisie?
Et voilà.
Et sa principale qualité, ce serait quoi?
Un bel homme.
Et son principal défaut?
Bel homme et le savoir.
Ah, c'est vrai qu'il le sait. Il est beau gosse, mais on voit qu'il le sait. Il s'aime bien, le nono. Ah, je sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais il s'aime beaucoup. Il fait partie du club de la mèche avec Laurent Delahousse et Guy Lagache. Il fait partie de l'amicale des visages poupons avec Gérard Larcher et Alex Vizorek. Il est beau et il le sait. Alors là, je crois qu'on a fait un bon bilan positif de cet Arnaud Montebourg. Il est temps peut-être de passer un peu de nuance avec un autre Français rencontré ce matin. Si je vous dis Arnaud Montebourg, ça vous évoque quoi?
Une merde sur une pelle en bois.
Arnaud Montebourg?
Oui. Il a sauvé la France en Montebourg. C'est un branleur. C'est le bobo gaucho. Qu'est-ce que vous avez? Mais je vous dis, une merde sur une pelle en bois. Voilà.
Mais je connaissais pas l'expression une merde sur une pelle en bois.
Et de l'apprendre.
Bah, c'est aussi ça le service public, hein, prendre une expression, une merde sur une pelle en bois. Alors ce monsieur n'est pas le président du fan club d'Arnaud Montebourg. Hein. Je crois que ça c'est un peu clair pour tout le monde.
Qu'il ne vote pas à gauche non plus.
Alors on va vous allez voir la suite. Il suit quand même les aventures d'Arnaud, il est un petit peu au courant.
Il culbute qui l'autre là, les lunettes à 10 000 euros là. Comment elle s'appelle? Elle
est Audrey Pulvar.
Ah ouais, voilà. Elle a dû le larguer parce qu'il est trop con.
Bah, écoutez, on lui demandera. Alors, on lui demandera si on l'a sous la main, parce que là on n'a que son homonyme apiculteur, c'est dommage. Je rappelle que le principal défaut de la compagne d'Arnaud Montebourg, c'est son compagnon. En tout cas, il est bien remonté, le monsieur. On ne savait pas qu'Arnaud Montebourg était aussi clivant. Et en même temps, ce monsieur, qui est-ce qu'il aime bien?
Sarko, c'est encore le seul normal. Le matin, il se lève, il va faire du vélo, il picole pas. Il a une gonzesse, elle est super canon. Et il nous a jamais fait moins chier que les deux connards qu'on a eu après lui. Hein, autant Hollande et puis l'autre trou du cul, là, aujourd'hui, le morveux, là, qui a l'âge de mon fils, là.
Mais Sarko, il a quand même quelques petites casseroles.
Qu'est-ce que c'est, quoi? Que vous voulez dire quoi? Mais putain, mais vous êtes un putain de gaucho de... C'est pas possible.
Moi-même ?
Ah ben certainement.
Vous savez, on est
tout
tous...
Tout le monde a pris. Tous...
ouais, colère, hein. C'est vrai qu'il a la même voix que Mocky. C'est on l'a rencontré ce matin, je fais des belles rencontres. Oui. C'est vrai que bon, bobo gaucho, on est tous le bobo de quelqu'un et ainsi de suite jusqu'au dealer de quinoa d'Eddie de Préto. En attendant, bah, on passe le bonjour à cet Arnaud Montebourg s'il nous écoute, en le remerciant pour toutes les conneries qu'il a pu dire et faire pendant sa carrière politique parce qu'on en a fait notre miel.
Oh merci Guillaume Meurice. Arnaud Montebourg, l'apiculteur est avec nous, pas le politique, on ne connaît pas le politique. Mais l'apiculteur, vous nous conseillez un ouvrage, Arnaud Montebourg.
Oui, je suis venu avec un livre qui est pour moi une référence, qui a été écrit par deux de vos confrères, journalistes, si vous considérez que c'est des confrères. François Roche et Béatrice Mathieu ont écrit un très bon livre, très instructif, Le miel. Enquête sur le nouvel or jaune, où il montre que ce sont des enjeux géopolitiques. Quand cette matière première frelatée se retrouve sur les marchés mondiaux à des millions de tonnes et que ça met en faillite des apiculteurs, eh bien c'est la pollinisation, donc l'avenir de la ressource alimentaire humaine dans certains pays qui est affaibli. Et donc c'est un enjeu géopolitique et certains pays ont décidé d'interdire les importations de miel, comme par exemple les États-Unis d'Amérique, bien avant que Monsieur Trump ne décide d'en faire une politique générale et, j'allais dire, presque aveugle.
Voilà. La maison d'édition Arnaud Montebourg, c'est paru où ?
François Bourrin.
Voilà. Très bien.
Très bon livre.
Arnaud Montebourg avec nous. On va aborder ce deuxième sujet. La France était, paraît-il, accoutumée à cajoler sa classe politique. Un candidat battu était recasé au sein du parti avant de reprendre son élan. Aujourd'hui, les politiques changent de carrière et la presse américaine s'en étonne, figurez-vous. S'accrocher à son siège serait une incongruité française. Les Ricains se félicitent que désormais, d'ancien ministre est une deuxième vie professionnelle. Bon, sauf un qui est parti sans qu'on sache jamais vraiment ce qu'il fait. Enfin, ce qu'il fabrique aujourd'hui.
Lionel,
vous me faites pas entrer ?
Si, si, rentrez.
D'où vient ce Jospin, le nom Jospin, votre nom ?
Jospin, c'est un nom d'origine flamande. Mes ancêtres, si je peux dire, sont descendus avec les troupeaux pour aller dans les usines textiles dans le nord de la France, venant des Flandres. Il n'y a qu'une famille, il n'y a qu'un groupe familial qui s'appelle Jospin. Donc si je croise un Jospin, c'est forcément d'une certaine la façon famille. Ma famille.
Il n'y a pas d'homonyme là. C'est Jacques Gamblin et Lionel Jospin dans le film Le Nom des gens, le film de Michel Leclerc. Alors le Courrier international relaye un papier de Bloomberg Worldview de New York qui démarre avec votre exemple. L'accroche de l'article du journal new-yorkais dit au début de l'année dernière, Arnaud Montebourg était candidat à la présidence de la République, etc. Aujourd'hui, il fait du miel. L'apiculture, dit-il, n'est qu'une autre forme de service public que vous prolongez, etc. C'est dans ce papier, je vous le donnerai. Vous êtes pris donc en exemple emblématique de la reconversion, parce qu'elle est aussi assez spectaculaire, c'est vrai. Mais la réadaptation à la vie civile, est-ce qu'elle est si difficile que ça ? On lit beaucoup d'articles sur que deviennent les anciens ministres, etc. Est-ce qu'à cause d'une forme de peut-être de privilège qu'on a quand on est ministre et de facilité, le retour à la vie civile, elle est plus compliqué ou pas ?
Bah, écoutez, non, moi, d'abord, je n'ai pas fait que ça dans ma vie. J'étais 8 ans avocat, j'avais monté mon cabinet, j'avais réussi à mon âge, la position qui était la mienne à l'époque, comme avocat, j'étais très heureux de faire ça. Puis le hasard, le destin a voulu que je sois élu à 34 ans député, puis ensuite, ça a duré 20 ans. Donc, pour moi, c'était le retour à ma jeunesse, finalement. C'est-à-dire, je retrouvais mes 30 ans, où on se remettait à faire des projets, on construisait quelque chose, on allait chercher des gens, avec qui le faire, bref.
Oui, parce que vous n'avez pas voulu redevenir avocat, ce qui était la plus facile généralement pour les politiques. Bah,
je ne voulais pas, parce que j'avais d'abord vécu ça, je ne voulais pas le revivre, je ne voulais pas retourner en arrière. Puis j'avais depuis longtemps en tête de faire ça. C'était un rêve un peu de jeunesse qui avait été un peu frustré par le hasard de la vie. Et donc je suis quand même là un entrepreneur épanoui et content de ce qu'il fait. Je ne vous dis pas que c'est gigantesque, c'est très modeste, mais c'est concret et ça me permet de dire à vos auditeurs qu'ils peuvent acheter le miel des apiculteurs entre 5 et 9 euros, c'est-à-dire un prix tout à fait acceptable,
vous vous
tout en repeuplant la France en abeilles.
Vous vous sentez plus efficace parce que vous dites plus concret. C'est vrai que votre idée, là, a germé quand vous étiez en campagne, que vous avez rencontré des gens, serré des louches, etc.
C'était il y a 10 ans. Quand je faisais du porte-à-porte, quand j'étais candidat pour être président du conseil général de mon département de la Saône-et-Loire, je suis tombé sur un apiculteur qui avait perdu toutes ses ruches, 800 ruches. C'était un drame, il pleurait presque. Et à l'époque, on savait pas. on ne comprenait pas. Donc je me suis mis à faire des recherches, je suis intéressé à ça, j'ai écrit sur le sujet quelques années plus tard. Puis après, je suis entré au gouvernement, j'étais pas à l'agriculture, donc ce n'était pas mon champ, mais c'est resté un point de préoccupation.
Mais voilà. Vous vous sentez donc plus efficace dans la société civile?
Je ne dirais pas ça, je dis c'est complémentaire. La politique s'occupe des grands problèmes. On peut être très efficace en politique, c'est difficile.
Est-ce que vous vous sentez aussi inefficace en politique qu'avec l'action civile?
La politique, c'est très dur. Pourquoi? Parce que c'est conflictuel. Donc, il faut convaincre des gens qui sont de mauvaise foi, en fait, en gros. En revanche, l'entreprise permet de résoudre des tas de problèmes. Ils sont pas microscopiques, sont importants, mais vous pouvez le faire facilement parce que vous unifiez les gens autour d'un projet et que tout le monde y trouve son compte. Et c'est ça l'équilibre, c'est la beauté finalement de l'entreprise et de l'action entrepreneuriale.
On est quand même obligé de vous poser la question. Est-ce que vous imaginez un jour revenir en politique?
Bah pas du tout.
Pour une raison simple, il faudrait quoi pour que vous ayez envie?
Écoutez, pour une raison simple, c'est ce qui manque. Vous savez, c'est comme en amour, quand il n'y a pas de désir, bah ça s'arrête.
Ça
mais on a souvent
hein.
Vu rejaillir le carrière
comme ça.
Hein. Ah oui, il a fait sa carrière comme ça.
Je ne
vous connaissais pas, mais je dirais félicitations.
On a souvent vu rejaillir le feu dans l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux, attention. Je vous laisse cet article. Je vous laisse cet article, lui dit justement à votre propos, l'apiculture n'est qu'une autre forme de service public que vous prolongez. C'est son interprétation, journaliste de Bloomberg Worldview. Je vous laisse cet article paru dans le Courrier international la semaine dernière.
Ben, c'est pas faux parce que notre entreprise Bleu Blanc Ruche, elle rend des services aussi à la société. En plus, même si son objectif, c'est d'abord de gagner normalement son argent, payer ses salariés, rémunérer le capital investi, etc. etc.
Arnaud Montebourg avec nous et également Clara Dupont-Monod avec un conseil lecture.
Mais oui, bonsoir Charline. Puisque l'actualité, c'est bien sûr Arnaud Montebourg, nous l'avons beaucoup dit, notre invité, lesté d'un parcours politique. Et justement, la politique, c'est un des sujets préférés de la littérature, avec la guerre et le sexe. Mais n'y voyez aucun lien, il se trouve que c'est comme ça. Et alors, il se trouve que le personnage littéraire qui incarne pour moi le mieux la tragédie de la politique, eh bien c'est Shakespeare qui l'a inventé avec notamment Macbeth. Alors que raconte cette pièce sublime qui est parue en 1623? C'est très très simple. Nous sommes en Écosse au Moyen-Âge et Macbeth ne rêve que de politique et de pouvoir. Et il est guidé dans son ambition par sa sublime et malfaisante épouse Lady Macbeth. Il tue le roi ainsi qu'une bonne partie de la cour pour enfin accéder au trône. Et je sais, Arnaud Montebourg, je sais, on dirait un résumé des primaires de 2017, un petit peu quand même. Hein. Alors, il se trouve que Macbeth, c'est le genre de héros tellement puissant que la littérature n'a pas cessé de le recycler, le transformer, le malaxer. En fait, un personnage très fort, c'est un terrain de jeu infini. Et là, c'est autour du roman policier de jouer avec Macbeth. Le joueur s'appelle Joe Nesbø, il est norvégien, et pour info, ce monsieur qui est chef de file du polar scandinave, en gros, c'est l'équivalent, il a vendu 25 millions d'exemplaires de romans policiers à travers le monde, de surcroît il ressemble physiquement à Bono, ce qui ne gâche rien. Mais il se trouve qu'il a repris la pièce de Shakespeare et il a planté Macbeth dans une ville crasseuse, complètement à la dérive, des années 70. Donc c'est une ville totalement abandonnée par les pouvoirs publics. Imaginez Brochon ou Frangy-en-Bresse.
C'est très beau,
oui,
Brochon et Brochon.
Vous avez fait votre lycée là-bas, justement. Ouais. Mais imaginez que ce soit complètement à la dérive, ça donnerait ça. Il n'y a rien à sauver, sauf un casino qui s'appelle l'Inverness, et c'est le nom du château de Macbeth, dans le Macbeth de Shakespeare. C'est son refuge, sa ruche, sa rue de Solferino à lui, si vous voulez. Et vous voyez, Nesbø reprend toutes les ficelles de Shakespeare en jouant à cache-cache avec lui. Alors, cela dit, petite précision, on peut lire ce roman policier sans avoir jamais lu le Macbeth de Shakespeare, et c'est aussi tout son prix. Mais le château devient casino, ça je vous l'ai dit, les chambellans deviennent des gardes du corps, le roi devient le préfet de police, les sorcières deviennent les prostituées, ainsi de suite. En fait, c'est là où on comprend combien la littérature est un bal masqué, où on ne sait jamais qui se cache derrière le masque. Et là, oui, je sais, Arnaud Montebourg, on dirait le quinquennat de François Hollande. Mais, je vous rassure, il n'y a pas que des morts dans Macbeth. D'abord, certains cadavres bougent encore, un peu façon PS, hein, ça bouge beaucoup, ça agit assez peu.
Il y a une petite métaphore où j'ai rêvé,
donc,
là.
Métaphore. Mais d'autres ne se laissent pas abattre si facilement et d'autres disparaissent sans avoir réellement existé. Vous avez travaillé avec Jean-Marc Ayrault, on l'a dit tout à l'heure, donc vous voyez à peu près ce genre de situation. Mais dans cet extraordinaire pas de deux violent que danse la politique et le pouvoir, il y a une épaisseur de Macbeth que Joe Nesbø a compris de Shakespeare, et c'est une très bizarre pureté. C'est-à-dire que Macbeth est bizarrement très respectueux des règles. Il a le sens du devoir. Il y a une forme d'intégrité assez surprenante. Ce qui explique que le Macbeth de Nesbeu souhaite vraiment inverser la courbe du chômage de sa ville, établir l'égalité, développer le bien-être des citoyens. Il va pas jusqu'à fermer les voies sur berge parce qu'il a un peu de jugeote, mais il est pleinement investi d'un projet politique pour sa ville. Et à un moment, dans le Nesbeu, Lady souffle à l'oreille de Macbeth, je cite, « Prends le pouvoir, car ce ne sont pas les belles paroles qui conquièrent le peuple, c'est qui tu es. Et toi et moi sommes des leurs, du peuple, avec le peuple, pour le peuple. » Donc, Macbeth est de gauche, je suis navré, Arnaud Montebourg, et je vous donne les références. Macbeth de Jonas Beu est paru chez Gallimard en série noire.
Prenez une petite semaine. Ça donne envie de le lire.
C'est très
vous
bien.
Vous savez très bien en parler, en tout cas, bravo.
Merci. Merci Clara Dupont-Monod.
Vous voulez dire prenez une petite semaine de congé parce que ouais, c'est un gros livre.
Oui, mais c'est le genre de livre qui se dévore. C'est un roman policier tellement bien troussé.
Un page turner.
Exactement, mais de qualité.
Très bien. Merci beaucoup Clara. Arnaud Montebourg dans notre compagnie. On va aborder ce dernier sujet avec vous à l'occasion de la sortie du film Le Poulain où Alexandra Lamy joue le rôle d'un gourou de la com. On se demande pourquoi depuis 15 ans le cinéma français s'est entiché de la politique. Il y a même un festival du film politique qui est organisé en octobre en Corse. Une manière de dévoiler les intrigues qui se trament dans les bureaux feutrés, les coulisses dorées de la République. Écoutez.
Pourquoi vous m'achetez des stabilos qui ne marchent pas? Regardez, ils pluchent. Il y a une crise au Louzémistan qui risque de tourner à la guerre mondiale. Comment voulez-vous que j'affronte le département d'État américain avec un stabilo pourri?
Mais monsieur, vous m'aviez dit que vous vouliez réécrire vous-même le discours. Alors je vous ai acheté un stylo, tout neuf. Un roller Tandol, point de fil numéro 3.
Mais justement, Martine, vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas ce que c'est que l'écriture. L'écriture, c'est du montage. C'est comme une abeille qui butine plusieurs fleurs. Et ça, on ne l'obtient qu'avec un stabilo. Ce qui compte, c'est d'y voir clair. Stabilo. Stabilo.
Pardon, c'est un de nos extraits de films préférés, de Quai d'Orsay, de Bertrand Tavernier, où Thierry Lhermitte campe Dominique de Villepin. Stabilo, tchac, tchac, tchac.
Martine.
Alors, en 84, Le Bon Plaisir de Francis Giraud, c'était un des premiers films politiques. Trintignant jouait Mitterrand. Il était question d'une fille cachée avant la révélation Mazarine. Depuis presque 15 ans, avec la conquête, l'exercice de l'État, et puis les séries comme Baron Noir, etc., la politique, le cinéma s'empare beaucoup de la politique. Beaucoup moins de l'apiculture, c'est étonnant.
Pour l'instant.
Ça pourrait. C'est une matière cinématographique digne d'intérêt, la politique. Et est-ce que le cinéma nous montre beaucoup le cynisme, les trahisons, les complots, etc.? Vous trouvez ça parfois fidèle, en dessous de la réalité?
Comment vous dire, j'ai trouvé le meilleur film pour moi était L'Exercice de l'État.
Ah, oui.
Parce qu'il était d'un hyper-réalisme, il n'exagérait pas les passions les plus viles. Et en même temps, il y avait de la vilainie. Mmh. Et en même temps, ça fonctionnait.
Bon. C'est ce qui était assez fidèle.
Donc ça, le Baron Noir va un petit peu plus loin dans la caricature, mais reste réaliste. Le meilleur, c'est évidemment à la Maison Blanche, West Wing, la grande série qui a popularisé ce goût. Et le truc infâme, pour moi, c'est House of Cards, c'est-à-dire qu'est franchement le cynisme à vomir, de A à Z. Et qui là est vraiment une caricature et qui correspond à la destruction de l'imaginaire qu'on peut mettre dans l'action publique. Parce qu'il y a des gens sincères dans la politique. Mmh. Peut-être qu'ils sont pas assez nombreux, j'en sais rien, c'est à chacun de juger. Il y a des gens sincères, il y a des gens courageux, il y a des gens qui font... Puis il y a des gens qui défont, il y a des gens qui cassent. Bon, c'est très dur.
Et c'est ça que vous,
mais c'est donc nuancé. Mmh. Alors évidemment, les passions tristes qui parfois engloutissent ceux qui exercent le pouvoir sont quand même une fatalité. On les retrouve depuis Macbeth jusqu'à aujourd'hui.
on va vous proposer une petite fiction si vous êtes d'accord.
À la fin de l'émission, on propose tous les jours un sketch à l'invité qui découvre un rôle qui lui tombe dans les mains, et vous êtes Arnaud Montebourg. Donc ça, le rôle est assez facile à jouer. Vous avez déjà aidé les abeilles, les amandes. Maintenant, vous vous attaquez à un dossier peut-être plus complexe. Charline et Guillaume sont vos élèves.
Oh, qu'est-ce que c'est là-bas qu'on voit bouger? Mais c'est un socialiste, mon petit.
Un socialiste qui bouge, mais vous plaisantez?
C'est quoi un socialiste?
C'est une vieille espèce en voie de disparition.
Comme les dinosaures?
Oui, mais en nettement moins dangereux.
Et pourquoi les socialistes ont disparu?
La cause la plus récente de leur disparition est le macroniflore.
Oh, c'est quoi le macroniflore?
Un néo-socialistoïde qui a dépeuplé les rangs.
Mais vous êtes là pour le repeuplement?
Exactement, nous allons élever des socialistes d'origine gauche garantie.
Ça a déjà existé.
Oui, mais à une époque où ni vous ni moi n'étions nés.
Et comment allez-vous faire?
Nous allons lancer une opération de crowdfunding pour des socialistes pleines terres.
Ah, ça va faire un choc.
Le crowdfunding, pensez-vous, c'est hyper moderne?
Non, je parlais de la terre.
Non, le socialiste, il est forcément hors sol.
Justement, on va le réimplanter pour qu'il retrouve des couleurs.
Une sorte d'enfouissement productif.
C'est un peu l'idée, c'est ça.
Mais comment faire pour empêcher le socialiste de butiner?
Vous voulez dire à gauche et à droite?
J'avais plutôt à droite et à droite.
C'est simple, je compte sur l'interdiction du macroniflore.
Mais ça suffira, vous croyez?
Et non, il faudra aussi le protéger d'un autre prédateur.
Ah, le frelon asiatique.
Non, absolument rien à craindre de Jean-Vincent Placé.
Mais quoi alors?
Le bourdon marseillais, dit l'Ameluche, est un ancien socialiste qui a muté.
Oh, ça doit être dangereux, ça.
C'est les pires, ils ont un très gros patrimoine génétique, je veux dire, et sont toujours en lutte, je veux dire, des classes.
Ah bon?
Et si jamais ça marche, on fait quoi après?
Ben, j'enverrai au président de la République un bon échantillon de ma cuvée du repeuplement.
Vous avez joué dans un film avec Charline, si je ne me trompe. Ah ben vous étiez brillant.
Dans Neuilly, sa mère, ah vous étiez très bonne. Ah oui.
Je jouais mon propre rôle. Je
faisais la partie de Neuilly. Neuilly, sa mère.
Son propre rôle, professeur à Sciences Po, tout à fait. Arnaud Montebourg, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec
sympa.
Nous.
Merci, c'était très sympa.
On a reçu donc l'entrepreneur qui a créé sa société, les équipes de Made in France, qui s'occupe des abeilles avec le miel et l'amande, le bleu blanc ruche qu'on découvrira bientôt.
Alors sur ulule.fr.
Hein. Ulule.fr.
C'est là qu'on l'achète. Allez-y.
Très bien. Merci beaucoup Arnaud Montebourg. Et voici le mot de la fin en hommage à Jean-Pia qui avait gentiment lui aussi accepté de jouer avec nous parce que Jean-Pia, c'était pas le dernier à se marrer.
Cher Ségolène, ta lettre m'a tellement ému que j'ai mangé une dizaine de croissants au petit déjeuner. Sais-tu que j'ai fait l'acquisition d'un scooter?
Mon François, je suis pleine de bouleversitude. Je n'avais jamais rien lu d'aussi beau depuis le dernier discours de Fidel Castro.
Chère Ségolène, arrête d'idolâtrer les gens de gauche. La gauche ne sera jamais au pouvoir.
Mai 2006, mon François, si je suis élu en 2007, je ferai de toi le premier homme de France.
Ma Ségolène, ne suis-je pas déjà le premier homme de France dans ton cœur? Mais rassure-toi, virgule, je ferai quand même tout pour te mettre des bâtons dans les roues. Je reste un socialiste.